La geek de service.
J'ai déjà recommencé depuis une semaine à travailler et je suis de retour devant les écrans. Vu la situation actuelle, beaucoup de choses se passent en mode virtuel. Apprendre à déconnecter est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés depuis quelques années. Alors, j'ai pensé vous parler de mes ressources, mes stratégies pour déconnecter un peu. Premièrement, j'aime toujours faire la distinction entre trois choses. Souvent, on trouve les gens connectés, comme moi par exemple, qui frôlent la cyberdépendance. Il faut faire attention de ne pas blâmer les gens qui sont beaucoup sur un ordinateur. Si je prends par exemple un technicien en informatique qui passe 7 à 8 heures par jour à travailler devant son écran, ça ne fait pas de cette personne-là un cyberdépendant. La cyberdépendance est vraiment autre chose. On parle d'une problématique où on doit aller chercher de l'aide, où il y a un impact vraiment sur toute notre vie en général, les relations avec les autres, notre santé. Donc, je mets de côté le côté cyberdépendance et à la place, je vais parler plus d'hyperconnectivité. Quand on a de la difficulté à décrocher sans nécessairement que ça affecte notre vie. Je crois que c'est quelque chose que j'ai moi-même, de l'hyperconnectivité, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de fonctionner, qui a un effet majeur, nocif sur ma santé, donc qui nécessite que je demande de l'aide, mais qui nécessite que je me questionne. La troisième chose qui entre en jeu souvent est plus un conflit de valeurs ou un conflit parfois générationnel, comme les parents qui vont dire « je comprends pas, moi quand j'avais ton âge, j'allais jouer dehors ». Aujourd'hui, c'est peut-être différent. C'est la même chose quand on comprend pas, par exemple, un gamer qui passe des heures à ses jeux, alors que nous, ce qu'on préfère, c'est par exemple faire de la cuisine pendant des heures ou jouer au hockey avec nos chums dans la ruelle pendant des heures. Là, on parle plus d'un conflit soit générationnel, si c'est une question d'âge et d'habitude, mais ça peut être aussi simplement un conflit de valeurs. Alors, il faut faire attention de respecter que, oui, la technologie, les jeux vidéo peuvent tout à fait être utilisés de façon saine et peuvent être un passe-temps qui nous intéresse pas, mais qui on peut respecter, qui intéresse les autres. J'essaie beaucoup de diminuer mon temps d'écran. Alors, je vous parle un peu des différentes stratégies. Une des stratégies que j'aime beaucoup est d'écouter de plus en plus de balados. Ça me permet, par exemple, de mettre ça dans les oreilles, de sortir, prendre une marche, d'écouter un balado en faisant la vaisselle, de plier mon linge en après le lavage, en écoutant un balado au lieu de le faire devant la télé. Donc, ça me permet d'écouter autant des émissions d'actualité, que des entrevues, que des émissions plus culturelles, mais de ne pas avoir les yeux rivés vers, par exemple, une vidéo YouTube, une série Netflix ou autre. Donc, j'essaie de privilégier des moments balado dans ma journée qui m'enlèvent les yeux de l'écran, fatiguent moins mes yeux et me permettent d'utiliser simplement mes oreilles. Ensuite, j'essaie parfois dans certaines rencontres de prioriser des appels téléphoniques quand l'écran n'est pas nécessaire. La vidéoconférence est extraordinaire pour qu'on se voit, pour le côté humain, même si ça remplacera pas les rencontres en personne. Mais parfois, on n'a pas besoin d'être à l'écran, puis on pourrait se parler sur téléphone avec les options main libre, les options avec nos écouteurs. Mais ça nous permet de peut-être faire une rencontre en justement allant prendre une marche et pouvoir gérer quand même un paquet de choses tout en bougeant, en n'étant pas assis passif devant un écran. J'essaie aussi beaucoup de gérer, c'est mon gros défi depuis un certain temps, c'est de gérer les canaux de communication. J'ai des gens qui communiquent avec moi sur Messenger, par texto, par téléphone, par Google Meet, donc en vidéoconférence, par courriel. Donc, tout entre de tous bords, tous côtés. Donc, j'essaie de voir comment je peux optimiser ça pour amener les choses à la bonne place et ne pas avoir à avoir une multitude d'appareils ou de sites ouverts. Je pense juste à... J'ai eu un petit... un petit trop-plein vendredi matin, j'avais 7 plateformes différentes où je recevais notifications, messages et autres. J'ai eu un petit moment de « ok, là, ça suffit, ça sonne là, ça sonne là, ça sonne là ». Donc, j'essaie de voir comment je vais pouvoir choisir un mode de communication et demander aux gens de communiquer avec moi. Par exemple, si c'est personnel, de communiquer par exemple avec Messenger, mais que si c'est professionnel, d'utiliser le courriel ou d'essayer de mettre une seule plateforme, ça devient étourdissant et très épuisant pour le cerveau de gérer une multitude de notifications. Parlant des notifications, j'ai pris le temps d'aller voir dans mon téléphone, de désactiver toutes les notifications qui n'étaient pas nécessaires. Trop souvent, on s'installe une petite application, par exemple, pour aller courir, une petite application pour me rappeler de boire de l'eau, parce que oui, j'ai ça. Et là, on reçoit constamment des notifications. On peut, dans notre appareil mobile, aller voir et aller enlever toutes les notifications qui ne sont pas nécessaires. Parfois, les notifications sont nécessaires. Par exemple, je veux absolument savoir si je reçois un texto de membre de ma famille proche, par exemple, mais il y a des notifications qui vont nous arriver sous forme de publicité. Je prends un exemple. J'aime beaucoup utiliser l'application de la presse, mais je reçois une panoplie de notifications. Je les ai enlevées parce que dans la journée, c'était un petit peu trop de distraction de recevoir une panoplie de notifications, même si les nouvelles sont très importantes. Puis à la place, ben, je prends un petit moment chaque jour pour aller voir les nouveautés puis aller lire ce qui m'intéresse. De cette façon-là, je ne suis pas constamment distraite dans la journée. Donc, gérer ces notifications, c'est très important. J'ai aussi amené mon ordinateur dans une pièce à part, ce que je ne faisais pas avant. Avant, il était dans le salon, dans la cuisine. Il était toujours disponible. J'entendais une petite notification. Oups, on va aller voir ce que c'est. Mais maintenant, l'ordinateur, un petit peu comme je faisais quand j'étais plus... que mes parents faisaient, en fait, quand j'étais plus jeune. Il est dans une seule pièce, puis il est là. Puis après, on le ferme quand on l'utilise pas. Alors, j'ai amené l'ordinateur dans une pièce fermée et quand je quitte, bien, l'ordinateur est fermé. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas accessible parce que j'ai toujours mon appareil mobile, mais ça m'évite de passer du temps et de voir souvent beaucoup de temps perdu. Où on s'assoit devant l'ordi, on se dit « je vais faire une chose », mais on se retrouve que ça fait une heure qu'on est en train de faire un million de petites choses. Ça arrive beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. L'autre chose que j'ai utilisée beaucoup, c'est les options dans mon téléphone Android. Ça s'appelle les options bien-être. Ce sont dans les paramètres de mon téléphone. Mais ça me permet de mettre des limites à certaines applications. Par exemple, je me suis mis une limite de temps à passer sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, parce qu'il est facile de tomber dans ces applications et de ne pas avoir passé le temps, puis on se rend compte qu'on a passé beaucoup plus de temps que prévu sur l'application. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui est un moment d'heure raisonnable? Et je me suis mis une limite. Ce que ça fait, c'est quand on a atteint notre limite, on se fait avertir comme 5 minutes avant, 1 minute avant, et après, ben boum, on tombe en grisou et on ne peut plus ouvrir l'application. Bien sûr, il y a moyen de contourner, on peut retourner dans les paramètres, ajuster notre minuterie, effacer cette minuterie-là puis retourner en cas d'urgence. Mais le fait de la mettre en grisou comme application puis que là, elle n'est plus disponible, mais je me rends compte que de temps en temps, je viens pour l'ouvrir puis je fais « ah non, j'ai passé suffisamment de temps sur celle-là puis on va prendre une pause puis c'est correct. » Donc, d'essayer de voir qu'est-ce qui est un temps d'écran pour vous qui est raisonnable peut être une belle façon d'apprendre à gérer cette espèce d'hyperconnectivité collective que nous avons plusieurs. Finalement, je vous recommande aussi quelques petites visites et sites. J'aime particulièrement le site posetonecran.com qui est très familial. Ça peut être autant partagé avec vos ados, vos enfants, que ça peut être intéressant pour les parents ou même les gens dans le milieu de l'éducation. Ils offrent des guides qui peuvent se télécharger, qu'on peut distribuer sur des bonnes pratiques d'utilisation des réseaux sociaux, du temps d'écran et autres. J'aime beaucoup leur petit quiz qu'on pourrait s'asseoir et faire en famille pour voir où on en est avec la technologie. Et les petits défis sont particulièrement intéressants. Ils ont, par exemple, une série de petits défis qu'on peut se donner une semaine à la fois. Je donne des exemples de défis. Se donner de défis en famille, en couple, entre amis. Pendant une semaine, dès qu'on est dans une file d'attente quelque part, on ne sort pas notre téléphone et on vit simplement le moment d'attente. Donc, on se donne des défis, on fait un retour, on peut en discuter. Ça pourrait être des défis qui pourraient être faits en classe aussi avec les élèves, en discuter. Ils pourraient tenir un journal, par exemple, cette semaine, comment ça a été de chaque fois qu'il y a une pause, de ne pas utiliser ton téléphone. Donc, ils ont une série de petits défis vraiment intéressants. Je viens de terminer aussi un épisode de balado avec The Happiness Lab, que j'aime beaucoup, qui parle de justement comment on peut être de plus en plus heureux avec un paquet de petites actions dans le quotidien qu'on peut mettre en place. Et elle passe en entrevue une dame qui s'appelle Catherine Price, qui est l'auteur d'un livre « How to break up with your phone » que j'ai ajouté à ma liste de lecture. Je trouve l'idée intéressante. Et c'était une discussion vraiment sur l'impact que peut avoir d'avoir tout le temps dans les mains un appareil qui nous connecte à tout le monde, mais nous déconnecte du moment présent et nous déconnecte des gens autour de nous. Donc, si vous voulez écouter l'épisode en question, elle est en anglais. C'est l'épisode 6 qui s'appelle « Dial D for Distracted ». Donc, très intéressant de voir ce que la science a à dire sur l'utilisation de nos appareils mobiles et surtout l'impact que ça a sur notre bien-être. Donc, je vais continuer mon combat contre l'hyper-connectivité continuer d'user de stratégies. Si vous avez vous-même des stratégies, je vous invite à communiquer avec moi puis me les communiquer. Je pourrais en parler lors d'un prochain épisode de Balado et je les appliquerai peut-être moi-même. À bientôt! Vous pouvez me rejoindre sur mon site web alexandracoutelet.com ou encore ma page Facebook Alexandra Coutelet ou encore me suivre sur Twitter à Coutelet A. N'hésitez pas à me partager vos commentaires et vos suggestions.